week-end. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
18h40 sur Europe 1, nous sommes en direct du théâtre du Rond-Point à Paris. Le débat des grandes voix dédié à la culture, au rôle de l'artiste, à l'intérêt et l'essence même de la liberté d'expression et comment elle est tenue, comment elle est brandie aussi par ses intellectuels. La culture contre l'obscurantisme d'abord, on n'en a que plus jamais besoin. Avec nous, Jean-Michel Ribes, metteur en scène, auteur, directeur du théâtre du Rond-Point. Le metteur en scène et acteur Nicolas Briançon, vous nous parlerez de vos pièces dans un instant. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Laetitia Krupa, journaliste politique, bonsoir.
Bonsoir.
Et Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique.
Bonsoir.
Bonsoir Philippe. Vous qui étiez déjà au théâtre du Rond-Point hier soir, vous aviez
absolument
une journée d'avance.
Absolument pour rien, mais au théâtre cet après-midi.
Ouais. C'est bon. Ah, vous êtes allé voir quoi cet après-midi?
Je suis allé voir Pirate, une pièce de, je crois que l'auteur s'appelle Julien Safa, et c'est extraordinaire parce que c'est une pièce sur la tolérance pour les petits. Mmh. Donc la tolérance à l'égard de tout ce qui est différent et de toutes les minorités. C'est étonnant, mais mes enfants de 5 ans ont adoré, donc... Voilà. Contrat rempli, Pirate.
On allait parler des grands classiques que Nicolas Briançon du traité sur la tolérance de Voltaire. Il y a aussi ce Pirate qu'a vu Philippe Moreau-Chevrolet tout à l'heure. Frédéric Dabi, je voudrais d'abord recueillir votre expertise sur le rapport des Français à la culture. La culture, c'est un bien grand mot. C'est presque pour certains d'ailleurs un gros mot. On ne sait pas très bien ce qu'on y met. C'est accessoire pour certains, c'est capital pour d'autres. Quel est le rapport aujourd'hui en France des citoyens face à la culture?
Malgré les fractures culturelles, il y a un regard très homogène de la part de l'ensemble des Français. Mmh. Il n'y a pas de fracture financière. Quand on interroge les Français spontanément dans les enquêtes qualitatives sur les atouts de la France, très vite, la culture arrive. L'exception culturelle émerge. Et à contrario, quand on travaille sur l'image de la France, très vite, l'idée de déclin émerge. Et ben, très rapidement également, dans les éléments de rassurance qui sont spontanément cités très facilement par l'ensemble des Français. Il y a bien sûr le tourisme, il y a bien sûr la gastronomie, il y a bien sûr des technologies de pointe, mais la culture émerge de manière massive. Mmh. De manière massive. D'où le contexte actuel où les Français voient le risque sanitaire, mais voient également plus fortement le risque économique sur toute une série de secteurs comme la culture, et il y a une vision assez sanctuarisée. Parce que dans une enquête que j'ai trouvée il y a quelques années, on a 84% des Français qui se déclarent attachés au principe de l'exception culturelle. L'exception culturelle et au principe, à la représentation que la culture n'est pas un bien comme les autres. Donc il y a cette image qui est extrêmement homogène et qui transcende tous les clivages traditionnels.
Oui, et puis évidemment, il y a des pièces qui s'intègrent, des spectacles qui s'intègrent complètement à l'actualité. On se souvient de la pièce Djihad de cet auteur belge qui avait été joué justement pour mettre en avant l'enrôlement dans cette guerre sainte terrible, la radicalisation des jeunes, les départs en Syrie. Laetitia Krupa, c'est la culture au cœur même de l'actualité, du concret justement.
Oui, bien sûr, on ne va pas reparler de toute façon de ce que tout le monde sait, le rôle fondamental de la culture dans nos sociétés, mais même pour le moral des Français, parce que quand toute cette crise sera finie, on espère qu'elle finit bientôt, mais il y aura la relance économique, mais sans morale, il n'y a pas de confiance, ce qui manque aujourd'hui en France, et le gouvernement est confronté dans toutes les enquêtes d'opinion, Frédéric, vous pouvez accéder, c'est-à-dire que les Français disent à plus de 50%, nous ne faisons pas confiance à ce gouvernement. Et pire, le gouvernement nous ment.
Si on continue, pas Fabrice Lucchini qui le dit.
Voilà, si on continue à retirer aux Français les moyens de comprendre, de s'ouvrir au monde, d'avoir un libre arbitre, d'avoir une connaissance aussi de la situation, il y a ce hiatus qui risque de se creuser. Or, la culture est fondamentale. Juste pour venir sur Roselyne Bachelot à l'instant, qui à l'antenne disait non, mais écoutez, ce n'est pas grave, enfin c'est un cas mouflé pour la ministre de la Culture. Elle fait un appel public dans une interview jeudi en demandant une dérogation pour le secteur culturel et le premier ministre lui dit non, dont acte.
Elle a été ministre
il n'y
de
aura
la Santé.
Pas d'exception. Ouais,
comment voulez-vous qu'elle s'inquiète?
Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Non mais la réponse du premier ministre est les règles sont les mêmes pour tout le monde. C'est un peu court.
Mmh. Frédéric Dabi, Jean-Michel Ribes, Nicolas Briançon ensuite. Allez.
J'acquiesce partiellement. Dans l'enquête IFOP JDD du jour, on voit Jean Castex qui perd 6 points. Bien sûr, c'est pas lié à la question de la culture, mais on a trouvé quelques verbatimes spontanés des Français qui exprimaient une vraie incompréhension face à cette décision. Maintenant, les mesures de restriction qui concernent que un Français sur 3 sont globalement approuvées. Parce qu'il y a deux grands leviers. Ce sont des mesures qui, pour l'instant, sont perçues comme quelque chose qui permet d'éviter le spectre ou le cauchemar d'un reconfinement généralisé. Mmh. Et puis, il y a une prise de conscience que ces mesures permettent de limiter la propagation du virus. Mais, comme le dit Laetitia, pour autant, les décisions sur la culture, je n'ai pas d'enquête qui ont été faites, comme on est à chaud, ne pourront pas être approuvés.
Philippe Moreau-Chevrolet.
Le problème, c'est que les politiques ne raisonnent que sur un axe, c'est le court terme. Mmh. C'est-à-dire que ça fait à peu près 3 mois qu'on avertit ce gouvernement qu'il va y avoir une deuxième vague. C'est pas le 11, c'est toute la communauté scientifique en dehors d'un ou deux zozos qui disent le contraire, qui sont malheureusement médiatisés, mais qui n'ont aucun crédit dans la communauté scientifique. Et au lieu de se préparer, d'équiper par exemple les salles de théâtre en filtres, parce qu'on sait qu'il y a des filtres aujourd'hui qui permettent de réduire la contamination, de dire aux professionnels quelles sont vos idées, comment vous pourriez vous adapter autrement qu'en coupant la jauge, peut-être encore une fois en utilisant de l'aération différemment.
Des idées, hein,
il y a des très bonnes idées en Italie, il y a des très bonnes idées en Allemagne, il y a énormément de pays qui font du travail là-dessus. Au lieu de faire ça, on décide en urgence un matin, du jour au lendemain, qu'on va imposer une restriction. On tue un secteur en faisant du stop and go depuis à peu près 9 mois sur des secteurs aussi cruciaux que la culture, qui, rappelons-le, nous rapporte davantage d'argent que, je crois que c'est l'un des tout premiers secteurs culturels au niveau du PIB, donc de la richesse française.
Nicolas Briançon et Jean-Michel Rey.
D'autant plus qu'il faut refaire rapidement l'historique de tout ça. C'est-à-dire qu'on arrête, nous on nous prévient, moi j'étais en pleine tournée à ce moment-là, le 12 mars, le fameux 12 mars et le 13 mars à midi, tout s'arrêtait. On n'a pas travaillé pendant 7 mois, c'est gigantesque. Hein. Acédic, certes, mais enfin, c'est pas ça qui peut faire vivre et qui, de toute façon, nous fait vivre. Ce qui nous fait vivre, c'est de travailler et de jouer. Et puis, le 27 août, moi, j'ai commencé à répéter un spectacle début juillet sans savoir si j'allais pouvoir le jouer, mais il fallait bien lancer les choses. Donc, j'ai répété pendant un mois et demi sans aucune certitude de pouvoir jouer. Le 27 août, le Premier ministre dit « Ouvrez les théâtres, demande au directeur de théâtre de rouvrir, dis, allez-y, allez-y, jouez, 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 c'est important, jouez, n'ayez pas peur, allez-y, il faut que les théâtres démarrent. » Encourage lui-même, a dit aux gens « Allez au théâtre, allez au cinéma », ce qui était tout à fait formidable. Et tout d'un coup, 5 semaines après, on dit « Ah ben, terminé », on lui dit « Juste si on joue à 19h, est-ce que les gens peuvent arriver à 21h30 chez eux ? Juste, est-ce que c'est possible ?» Non, non, il n'en est pas question. Sur une intervention de Bruno Le Maire, dont on se demande ce qu'il vient foutre dans l'histoire, excusez-moi, mais je veux dire, en quoi le ministre des Finances a donné son avis sur l'ouverture des salles de théâtre après 21h ? On n'en sait rien.
Et elle fonde compensation,
tout ça marche sur la tête, on a l'impression d'une improvisation absolue, totale, permanente.
Et vous faites et vous défaites.
COVID, on va vivre avec lui pendant des années encore. Il va bien falloir trouver un moyen pour que tout fonctionne une fois pour
c'est
tous.
C'est ça qui fait peur, parce que si on fait que du court terme pendant 2 ans et demi, on va se réveiller.
Là, on va fermer 4 semaines.
Et vous allez devenir fou.
On va refermer 4 semaines.
Jean-Michel Rive.
Invivable.
Non, mais moi, il y a une chose qui m'a... Vous avez raison sur le plan de l'information ou du contact avec les professionnels. Il y a une chose qui est évidente. Il n'y a pas une seule salle de théâtre en France qui a été marquée et dite comme un cluster. Ouais, bon. Alors, à partir de ce moment-là, alors c'est vrai que la bataille est rude, mais je voudrais savoir pourquoi on bombarde des lieux où l'ennemi est absent. C'est ça la question. Tout d'un coup, pourquoi ?
Parce que le Premier ministre a dit les règles sont les mêmes pour tout le monde. Oui, il a répondu. Hein, après, vous êtes d'accord ou pas avec ce que dit Jean Castex.
C'est une réponse.
Mais vous avez raison. Les injonctions contradictoires, c'est ce qui mine, c'est ce qui pourrit complètement la politique du gouvernement. Parce que effectivement, comment comprendre que même Emmanuel Macron, alors c'était en off, mais disent laissez les Français vivre à la rentrée. Il faut vivre avec ce virus.
Il n'a pas été très disert sur la culture. Il s'est contenté de dire oui, les théâtres fermeront mercredi soir.
Les ministres qui dans l'ensemble ne sont pas très disert parce que Roselyne Bachelot, elle est plus visible. C'est la plus populaire des ministres du gouvernement, en gros, parce qu'elle ne fait pas grand-chose. Bon, elle, ça lui bénéficie parce qu'elle est connue à la base.
Elle a aussi une histoire auprès des Français,
auprès des Français. Franck Riester a été complètement transparent, donc ça fait une éclipse de ministre qui dure quand même depuis...
Roselyne Bachelot a fait 2 ans de télévision, ça aide aussi.
Frédéric Dabi, pour terminer cette partie.
Je voudrais rebondir sur votre témoignage. C'est vrai que c'est un peu ce que nous disent les Français, le sentiment d'incohérence, qu'il n'y a pas de cap. Il y a une personne qui avait incarné un cap pendant la crise, c'était Édouard Philippe. On comprenait ce qu'il disait, c'était l'émetteur le plus visible et le plus compréhensible par les Français. Clairement, il n'a pas été remplacé. Et c'est vrai que l'incertitude que vous éprouvez est aussi éprouvée par l'ensemble des Français. Et tout ça fabrique un pessimisme jamais vu, puisque le pessimisme, ou plutôt l'optimisme, c'est la capacité à se projeter dans un avenir plutôt positif. Et c'est vrai que les Français n'ont plus ça, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Ça tient parce que il y a ce refus d'un reconfinement et cette crainte vis-à-vis de la maladie qui est réelle, mais cette crainte est inférieure à l'inquiétude économique qui touche tous les secteurs, dont le secteur culturel.
On se retrouve dans un instant.
Oscar Wilde disait, je suis très très pessimiste pour l'optimisme.
Eh oui, mais on se retrouve dans un instant dans le débat des grandes voix, depuis le Théâtre du Rond-Point, avec Nicolas Briançon, Philippe Moreau-Chevrolet, Frédéric Dabi, ouais. Laetitia Krupa, Jean-Michel Ribes, Denis Gravouille qui nous rejoint, chef opérateur et secrétaire général de la CGT Spectacle. À tout de suite.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1, la culture face à l'obscurantisme, le rôle de l'artiste dans la société. Il nous rejoint dans ces grandes voix, Denis Gravouille, chef opérateur et secrétaire général de la CGT Spectacle. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie d'être là aussi à cette table parce que vous avez brandi vous aussi un slogan fort. Est-ce la Covid qui va tuer la culture ou est-ce le gouvernement? C'est comme ça que vous avez ressenti les choses, la frustration qu'on partage depuis quelques moments et surtout face à la puissance et au rôle essentiel de l'artiste, vous êtes senti trahi
c'est
avec la profession.
On sait, comme ça a déjà été dit dans les quelques minutes qui viennent de s'écouler, c'est que on a pris la décision de façon brutale mercredi soir, sans aucune concertation. C'est-à-dire que la ministre nous a tous appelés jeudi matin et nous a invités à une réunion l'après-midi. Mais la décision était déjà prise. Or, il se trouve que depuis le mois de mars, comme le disait Nicolas tout à l'heure, il y a des discussions pour savoir comment on fait pour s'adapter. On a tous compris avant le gouvernement qu'on allait durer avec la Covid pendant des mois et des années. On avait parfaitement entendu les messages comme quoi il y aurait une deuxième vague. On savait très. D'ailleurs, il y a des endroits dans le monde où certains concerts ont prévu de ne reprendre que en septembre 2021. Donc, on savait qu'il fallait des mesures d'adaptation à long terme, et on a proposé, et comme ça a été dit, par exemple des mesures sanitaires très strictes pour que les salles puissent réouvrir. Et là, le couperet de 21h est totalement inacceptable.
Il n'y avait pas de pire choix d'horaire pour vous.
Pour nous, c'est clair, c'est que les séances de cinéma, les séances de spectacle, de théâtre ou autre, ne peuvent pas se terminer. On peut pas y aller. On est d'accord, évidemment, pour qu'il y ait des mesures sanitaires pour que les spectateurs soient pas en danger, et les artistes et les techniciens qui travaillent sur les spectacles, bien évidemment aussi. Mais par contre, le 21h, ça n'a pas de sens.
Oui, mais revenons à l'origine aussi de cette décision, et Patrick Peloux, vous êtes autour de la table. Lutter contre la propagation du virus. Bien sûr, c'est vrai, Jean-Michel Ribes rappelait, pas de cluster dans les théâtres, Richard Berry le disait aussi. Mais c'est ça le sens de cette mesure dure, frustrante, qui nous rend peut-être amère quand on est artiste.
Alors écoutez, on va se dire les choses.
Vous n'êtes pas envoyé spécial du gouvernement.
Voilà, je ne suis pas envoyé spécial, ça se saurait depuis le temps. On est solidaire des décisions du gouvernement. Il gère une gestion de crise avec une pandémie, une nouvelle maladie qui est arrivée sur Terre. C'est pas facile, etc. Faisons vite. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est qu'en fait, si on en est là, c'est pour gérer en fait une crise de l'hôpital. C'est rien d'autre, en fait. Mmh. C'est parce qu'on n'a pas assez dit en réanimation médicale. Donc tout est là. Si vous mettez suffisamment de lits en réanimation médicale, il n'y aura pas de problème. 85% des cas, vous le savez, vous avez des tas ceux qui nous écoutent, il y a des tas de gens qui ont été contaminés du virus. Dans 85% des cas, ça reste une maladie qu'on surveille à domicile grâce aux médecins traitants. Bon. Là, on bloque le pays, et puis alors ça fait un moment, puisque c'est depuis le mois de mars quand même, hein, parce qu'on n'arrive pas à gérer la crise de l'hôpital. Bon, tout est là. Quand vous prenez les trains, les mesures barrières, les masques que nous avons autour de la table, etc., le gel hydroalcoolique, la distanciation physique, etc., on sait que ça ralentit l'épidémie, ça freine, ça vous évite d'être contaminé, de contaminer les autres, c'est un geste citoyen. Vous avez remarqué comme moi, les Françaises et Français ont compris, dans les rues de Paris, tout le monde le disait, ça sera jamais respecté, c'est respecté, dans les trains. Mmh. Pour paraphraser Churchill qui disait pendant la guerre, où son ministre du budget disait on va pas donner d'argent pour la culture parce que c'est la guerre, Churchill avait dit si on donne pas d'argent à la culture, pourquoi voulez-vous qu'on fasse la guerre? Pour paraphraser ça, comment voulez-vous que nous on soigne des gens qui ont plus le moral? Vous avez le moral parce que vous avez la culture et l'amour. Bon, alors l'amour il est remis en cause parce qu'on dit aux gens il faut plus se rassembler chez soi, d'accord? Et puis maintenant on leur dit, puis alors la culture on l'étrange.
Il y a pas que de l'amour à
c'est
plusieurs.
Pas possible. C'est pas possible.
On n'est pas obligé d'être six.
Et récemment je suis allé voir François Morel qui a repris sa tournée avec le spectacle de De Vos, et j'entendais les gens rire et ça leur faisait du bien. Il faut que les gens ils aient le moral. La France, là, elle est meurtrie. Oui. C'est très difficile. En plus, vous rajoutez l'attentat, la crise sociale. C'est épouvantable.
Oui, c'est ce qui vous meurtrit aussi, comme artiste.
Il faut laisser les spectacles faire. C'est pour ça que cette dérogation de 22h, 22h30, le laisser passer avec le ticket
elle
de théâtre,
était légitime,
etc. Écoutez, je suis allé voir le théâtre du Rond-Point, d'autres théâtres, je suis allé voir. Vous avez fait le boulot, les gars. Vous avez fait le boulot. Les gens, ils sont isolés, ils portent le masque. C'est pas pire que quand vous prenez le train. C'est juste le moral des Françaises et des Français. Alors, et l'accès à la culture est absolument fondamental.
Laetitia Krupa, merci.
Mais Patrick, restez là. Ne partez pas parce que justement, ce que vous dites ne fait pas consensus. Et c'est tout le problème. Vous n'êtes pas la majorité de scientifiques à dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que 85% pour des cas se soignent à la maison et finalement se guérissent. C'est ce que vous venez de dire. Sauf que c'est pas un discours que l'on entend. Oui. Le gouvernement dit on ne peut pas laisser mourir les plus vulnérables et donc il faut une solidarité
personne
nationale.
Les laisse mourir.
Voilà. Oui, mais
personne ne les laisse mourir.
C'est ce que dit le gouvernement, l'exécutif.
Mais je comprends tout à fait le gouvernement. Il a le droit de dire ça. D'abord, vous mettez trois médecins autour de la table, vous avez six avis différents parce que tout le monde change d'avis avant que l'autre ait fini sa phrase.
C'est le gros problème.
D'accord. Donc c'est impossible. C'est là où vous avez besoin d'une direction politique. La direction politique du pays, là, écoutez, en plus de ça, on ne sait même pas combien de temps ça va durer. Vous allez fermer tous les lieux culturels, ce que disait quelqu'un tout à l'heure. Le produit intérieur brut fourni par la culture est supérieur à l'automobile. Vous allez tout péter comme ça longtemps ? Non. On sait très bien que si vous avez des gestes barrières, vous pouvez rester. Moi, je respecte les gestes barrières. Je soigne des malades gravissimes du coronavirus, d'accord ? J'ai toujours pas chopé le coronavirus, d'accord ? Donc après, il y a des professeurs de médecine, je les connais par cœur, qui rêvent d'une junte médicale en France pour faire régner un ordre hygiéniste. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, et je suis pas d'accord.
Et
je
pourquoi suis votre d'accord. Voix et votre théorie n'est pas majoritaire, alors?
Eh ben, ça, j'en sais rien.
En tout cas, elle s'exprime largement ici.
Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est que le pays vive.
Voilà.
Si le pays arrête de vivre, après, nous, on pourra faire tout ce qu'on veut. On voit des gens qui vont pas bien, parlez-en avec les psychiatres. On voit des malades qui ne se soignent plus. C'est une réalité. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que le coronavirus, il y a toutes les autres maladies. Mmh. Et c'est pour ça que là, on fait une crise sur la crise.
Et effet collatéral. La culture aussi, et les artistes ne vont pas bien.
Je suis d'accord avec Patrick Peloux. C'est-à-dire que si on fermait pas des lits, on pourrait non seulement pas fermer des lits d'hôpitaux, comme c'est encore prévu dans la loi, dans le projet de loi de finances, sur la sécurité sociale qui vient d'être passé, et on ne serait pas obligé de fermer des théâtres ou des lieux de spectacle. C'est-à-dire que nous demandons à ce que nous avons pris en compte dès le printemps que nous voulions que les spectateurs soient accueillis dans des bonnes conditions sanitaires, et il n'y a pas eu de cluster dans les lieux de spectacle. Et là, on nous annonce une décision brutale, et en plus, il n'y a aucune compensation, c'est on verra plus tard. Alors que ce sont des métiers dans lesquels les artistes, les techniciens, et dans la musique, les musiques debout, c'est catastrophique, dans lequel les gens ne travaillent plus, ne demandent qu'une chose, c'est un, de retravailler dans de bonnes conditions, et en plus, ne pas crever de faim, oui. Parce que c'est en train de se passer.
On va parler des concerts avec Fabien Lecoeuvre dans un instant.
Il n'y a aucune compensation, contrairement à ce que m'a dit Mme Bachelot, et d'accord, elle
puis parle la perfusion nous, financière,
mais
ça
pour l'instant, il y a un plan de relance totalement insuffisant qui est pour plus tard, dans les deux prochaines années.
Nicolas
c'est maintenant qu'on est en train de crever de faim.
Une des surprises de la reprise, quand on a redémarré les théâtres en septembre, c'était d'une part l'affluence, l'enthousiasme,
l'envie,
la ferveur des spectateurs. Il y a quelque chose dans ces salles en ce moment qui est de l'ordre de la résistance,
oui.
Qui est très beau et qui est fort et qui est puissant, et tout d'un coup à tous ces gens-là on fout un gros coup sur la tête en disant bah non, tac, coup sur les doigts, tu n'iras pas, rentre chez toi, non 21h10 c'est pas possible parce qu'on a dit que ce papa a dit que ce serait 21h et c'est pas 21h10.
Vous aggravez toutes les maladies,
c'est
avec
tellement puéril comme réaction, c'est tellement puéril, on a envie de dire mais c'est enfantin, votre réaction est enfantine et bête.
Le mot de la fin, Philippe Moreau-Chevrolet.
Le problème, c'est qu'il y a une défiance réciproque. Il y a une défiance du gouvernement à l'égard de la population et de la population à l'égard du gouvernement. Donc, comme il n'y a pas de confiance dans cette crise et qu'on ne fait rien pour la construire, le gouvernement se dit, si on leur laisse le 21h30, le 22h, il n'y a plus d'ordre après. Il y a tellement... En France, il y a aussi une pratique de la loi qui est assez molle. C'est-à-dire, on va prendre une loi et le lendemain matin, on fait des exceptions à la loi.
Oui.
Et ça détruit un peu le truc. Donc c'est pour ça qu'ils sont rigides. Ils n'ont pas confiance dans les Français.
Les Français, ils ont respecté le confinement.
Merci,
ils respectent
messieurs.
Le port du masque.
Ouais.
Quand même.
Merci beaucoup.
Je vous remercie,
je vous salue dans un instant. On fait une petite pause et on revient. À tout de suite.
Wendy Bouchard, les grandes voix.